La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, l'émission scientifique coproduite par l'Université de Montpellier et Divergence FM qui vous emmène en croisière dans les laboratoires de recherche de l'archipel Muse. Et la science n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Comme d'autres secteurs, la recherche est elle aussi traversée par des questions d'économie, de compétitivité, de valorisation, posant ainsi la question plus précise de l'innovation. Qu'elle soit médicale, technique, culturelle ou numérique, l'innovation est aujourd'hui le principal outil de valorisation de la recherche. En 2018, plus de 1000 demandes de brevets ont ainsi été classées rien que dans la région Occitanie. Établissements de recherche publique, entreprises, start-up, les acteurs de l'innovation travaillent-ils de manière collaborative ou chacun pour eux ? Pour scruter ces pratiques, en 2020, s'est créée à Montpellier la chaire Coho Innove. Elle a récemment publié son premier rapport sur l'innovation collaborative à Montpellier, fruit d'une série d'entretiens avec les grands acteurs de cet écosystème. Quels en sont ses points forts et ses points faibles ? On en discute avec nos deux invités. Anne-Sophie Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Leroy, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes tous les deux les directeurs de la chaire Coho Innove. C'est bien ça ? Et vous êtes également enseignant ?
C'est bien ça.
Donc Anne-Sophie Fernandez, vous êtes enseignante ?
Oui, tout à fait. Je suis maître de conférence HDR à l'Université de Montpellier, à l'Institut Montpellier Management.
D'accord. Et vous, Frédéric Leroy ?
Donc, Frédéric Leroy, professeur à l'Université de Montpellier et donc dans l'Institut Montpellier Management également.
Merci beaucoup. Avec moi pour mener cette interview, ma collaboratrice. J'ai pas trouvé de bonne
collaboratrice, adjectif. C'est très bien.
Bonjour Aline Perriot.
Bonjour tout le monde.
En seconde partie d'émission, la rubrique En salle des machines vous emmène sur le campus STAPS à Euromov, où Stéphane Perret, son directeur, nous fait découvrir la plateforme iMOS et son flying carpet. En fin d'émission, Amrine nous fera découvrir la collaboration parfumée entre Arthur Dupuis et la chercheuse Isabelle Parot. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors pour commencer, on va peut-être revenir à la base de la base. Qu'est-ce que c'est qu'une chaire ? On en parle régulièrement, mais la différence entre une chaire et un laboratoire, qu'est-ce que c'est ? Lequel de vous peut me répondre ?
Un laboratoire, c'est une structure purement universitaire. Et a priori, les chercheurs s'adressent aux chercheurs. Ils publient ou ils font de la recherche pour faire avancer la connaissance. Donc c'est un petit monde, en fait, même si c'est un monde global. Et donc c'est un peu un entre-soi d'académique. Et l'idée des chaires, c'est justement d'interagir, de sortir un peu du laboratoire et d'interagir avec la sphère plus, disons, sociale, économique, managériale pour nous. Et pour créer des interactions, pour que la recherche ne reste pas dans les laboratoires. Mais ce n'est pas simplement que la recherche sorte et soit diffusée, c'est interagir avec les acteurs économiques et politiques pour créer ensemble de la connaissance.
Alors cette chaire Co-Innov, elle a été créée en 2020, c'est bien ça ?
Tout à fait, oui.
C'est bien ça. Et donc quel est l'objectif de cette chaire et qui elle rassemble, Anne-Sophie Fernandez ?
Alors c'est une chaire qui a été créée en février 2020 au sein de la Fondation de l'Université de Montpellier et en partenariat du coup avec l'Institut Montpellier Management, l'École de Commerce, Montpellier Business School et le LabEx Entreprendre. Et le but de cette chaire, c'est de favoriser la diffusion, l'échange, la création de connaissances entre les chercheurs d'un côté, les acteurs, c'est-à-dire les entreprises, les pouvoirs publics et les étudiants, autour de ces problématiques de collaboration et de compétition pour l'innovation.
Et Lucie l'a dit en introduction, vous venez de publier justement un rapport sur l'innovation collaborative à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément qu'est-ce que c'est exactement l'innovation collaborative ?
Alors, le principe, c'est que tout au long du XXe siècle, et même au siècle précédent, l'innovation était le domaine du secret. C'est-à-dire qu'on innovait pour détenir une connaissance unique, on essayait de breveter, et à partir de là, tirer des rentes de ces brevets. Et ce qui a changé là, avec la fin du XXe et surtout le début du XXIe siècle, c'est d'abord les coûts qui sont liés à la recherche. C'est de plus en plus difficile de financer tout seul la recherche, les risques liés à la recherche, de prendre les risques tout seul. Et il y a un deuxième problème qui est la connaissance. C'est très difficile aujourd'hui pour une entreprise d'avoir toute la connaissance nécessaire pour l'innovation. Donc ça a amené les entreprises à mutualiser en fait à la fois les coûts, les risques et les connaissances pour être capables d'innover. Et l'exemple le plus actuel, c'est celui de Pfizer et BioNTech. La meilleure façon d'avoir un time to market très réduit, c'est de collaborer donc entre deux entreprises pour nous délivrer très rapidement ce vaccin.
Un time to market, c'est-à-dire c'est le délai entre le moment où on crée le vaccin et où il arrive sur le marché.
Typiquement, si on veut faire tout seul, on risque de prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire le vaccin. Si on collabore entre deux entreprises, en partie concurrentes d'ailleurs, on est les plus rapides sur le marché. Donc c'est une bonne illustration de ce que c'est qu'innovation collaborative aujourd'hui.
Oui, c'est une très bonne illustration. Alors vous avez choisi dans ce rapport de prendre l'exemple de l'écosystème montpelliérain, donc ça tombe très bien pour nous. Est-ce que vous pourriez nous le décrire un petit peu? Alors, lequel d'entre vous, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cet écosystème? C'est quoi ses particularités? Est-ce qu'il est dynamique ou pas, l'écosystème montpelliérain?
Alors oui, tout à fait, c'est un écosystème qui se caractérise par une très forte dynamique avec énormément d'acteurs impliqués dans ces problématiques d'innovation, à la fois des acteurs privés mais également des acteurs publics. On retrouve un grand nombre de start-up, de petites structures impliquées dans ces démarches d'innovation. On retrouve de nombreux incubateurs, des pôles de compétitivité et par contre très peu de grandes entreprises moteurs de ces questions d'innovation, de ces dynamiques d'innovation.
On en parlera justement donc de tous ces atouts et de toutes ces faiblesses.
Et justement, vous nous avez parlé des pôles de compétitivité, mais est-ce que vous pouvez nous détailler un peu en quoi ça consiste, un pôle de compétitivité? Qu'est-ce que c'est?
Le principe, alors c'est, l'État a un peu suivi l'exemple phare de la Silicon Valley. C'était du temps de notre président Sarkozy, qui s'est mis en tête sur un territoire, de se dire sur un territoire, on ne peut pas être bon en tout. Il y a quelques grands domaines de spécialité qui sont là en crise historiquement. Et plutôt que chaque acteur sur un territoire travaille seul, l'idée, c'est de les faire travailler ensemble à travers ces pôles qui à la fois financent et coordonnent les projets collaboratifs pour que la connaissance qui soit sur un territoire devienne encore plus riche à travers cette collaboration. Donc c'est l'État qui s'est mêlé d'organiser, on appelle ça des clusters, en tout cas l'économie locale dans des domaines de spécialité.
C'est plus connoté pareil maintenant, hein, des clusters.
Oui, oui.
Pardon, excusez-moi, je vous coupe.
Oui, des clusters économiques.
Voilà.
C'est des clusters économiques. Tout est parti, pareil, de la fin des années 90, un article d'un auteur qui s'appelle Michael Porter qui explique que la compétitivité de la Silicon Valley tient au fait que les gens sont proches géographiquement et travaillent ensemble et innovent ensemble, avec beaucoup notamment de flux de main-d'œuvre qui passent d'une entreprise à l'autre et des projets collaboratifs qui sont menés ensemble. Et donc, l'État reprend cette idée. Le plus emblématique, c'est Paris-Saclay, bien sûr, à côté de Paris. Mais l'idée, c'est d'avoir quelques pôles de compétitivité sur des très fortes spécialités régionales.
Et justement, vous disiez qu'on ne pouvait pas être bon en tout. Et alors, à Montpellier, on est bon en quoi?
Si on regarde le projet MUSE, hein, on a trois axes forts, disons. Du domaine de la santé, avec des pôles de compétitivité, avec Eurobiomed. On a le domaine écologique, avec un pôle eau notamment qui est très fort. Et le domaine de l'agroalimentaire, où traditionnellement Montpellier, avec la vigne notamment. Donc c'est, pour moi, MUSE représente, le MUSE est sur les trois axes forts de Montpellier, sur lesquels on a des pôles de compétitivité qui marchent assez bien.
Très bien. Les pôles de compétitivité dont vous parliez, justement, c'est Aerospace Valley, c'est bien ça? Ça, c'est pour l'eau?
Aerospace Valley, c'est...
C'est Aerospace, c'est l'aéronautique et le spatial.
Ah, c'est l'aéronautique. Spatial. D'accord, très bien. Et Agri-Sud-Ouest Innovation, je reprends là dans votre rapport, c'est les trois gros pôles que vous aviez cités. Agri-Sud-Ouest Innovation, qu'est-ce que c'est?
Donc ça, c'est l'agroalimentaire.
D'accord, c'est l'agroalimentaire, très bien. Vous parlez aussi des incubateurs dans ce rapport. Ouais. Donc les incubateurs, qu'est-ce que c'est exactement et quel rôle ils jouent donc dans cette aide à l'innovation?
Les incubateurs, on en a de deux types dans l'écosystème montpelliérain, des incubateurs publics, des incubateurs privés. Leur rôle, c'est de favoriser l'innovation, mais pas nécessairement de favoriser l'innovation collaborative. Ils vont mettre à la disposition des startups tout un ensemble d'aides, de soutien à ces startups pour les encourager à innover. des connaissances, des facilités pour des appels d'offres, des conseils. Mais ce n'est pas forcément des acteurs qui vont être directement impliqués dans l'innovation collaborative. Ils peuvent la favoriser, mais ça ne fait pas partie nécessairement de leur mission.
D'accord.
Et dans ces acteurs-là, justement, est-ce que la région, c'est un acteur qui, lui, est particulièrement impliqué à Montpellier, en tout cas en Occitanie, dans l'innovation collaborative ?
Si vous prenez Occitanie, si vous allez jusqu'à Toulouse, par exemple, il y a le gros pôle Aerospace Valley dans lequel il y a Airbus. Oui, il y a des soutiens de la région à cette activité. Si on prend la situation montpelliéraine, il y a des soutiens, effectivement. Mais là, vous tombez en fait sur un point qui est essentiel. C'est que l'innovation collaborative, elle peut être impulsée soit par des pouvoirs publics, notamment à travers les pôles de compétitivité, avec des soutiens aux différents niveaux de l'action publique. Et c'est beaucoup là, comme ça que ça se passe à Montpellier. Et si vous prenez d'autres pôles, c'est plutôt poussé par un grand acteur, une grande entreprise, qui va structurer l'écosystème d'innovation autour d'elle, notamment à travers des réseaux de sous-traitants, mais aussi en finançant des start-up. Et donc on a vraiment ces deux façons de faire assez différentes. Toulouse, qui est plutôt marquée par un grand acteur qui est Airbus, et qui impulse ce qu'on appelle l'innovation verte ou l'innovation collaborative. Et Montpellier, où on est quand même plus sur l'action publique pour l'instant, pour tout ce qui est innovation collaborative à travers les pôles de compétitivité.
Alors vous avez justement parlé de MUSE en montrant la correspondance qui existe entre ces pôles de compétitivité et les trois grands thèmes de structuration de MUSE. Mais dans cet écosystème qui porte l'innovation, quel rôle MUSE pourrait jouer à terme justement ? Est-ce qu'elle peut être ce rôle de moteur ?
Disons que la première raison d'être de MUSE, c'est de devenir ce qu'on appelle un e-site, c'est-à-dire un site d'excellence au niveau français, pour bénéficier de financements plutôt pour la recherche. C'est la vocation de MUSE, c'est au niveau de l'Université de Montpellier, mais élargi, à travers ce qui va devenir, on espère, le grand établissement regroupant l'essentiel des forces de la recherche Montpellier-Rennes. Donc c'est d'abord un projet universitaire, je dirais. Mais effectivement, l'idée, c'est de s'inscrire dans cette dynamique de cluster régional, même si le cluster est un, est un mot malheureux actuellement. Donc il y a beaucoup d'accords. Enfin, MUSE a vocation à s'ouvrir sur l'activité économique. Oui.
Et
d'être une locomotive également. Des liens notamment entre la recherche et l'économie.
Et justement, ça fait partie des atouts justement de Montpellier en termes d'innovation collaborative. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atout ici pour favoriser ça ?
Alors c'est un peu le problème, si vous voulez. Là, on va tomber peut-être sur les conclusions du rapport. Donc la première conclusion du rapport, c'est qu'effectivement, il y a un dynamisme entrepreneurial et autour d'innovation très fort à Montpellier. Ça, il y a tous les acteurs qu'on a interrogés, ils sont unanimes là-dessus. Il y a très bonnes impulsions du pouvoir public, il y a des très bons incubateurs, il y a des très bons projets, il y a beaucoup de start-upers avec un fort potentiel. Il y a une bonne expérience qui a été accumulée. Donc on a une bonne capacité à soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat en termes de start-up, disons. Et ce qui manque, par contre, c'est des locomotives de plus grande taille.
Ces grandes entreprises dont vous parliez, justement. Ouais. Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, si on peut prendre l'exemple de la Cleantech Valley à Marcoul, il y a des grandes entreprises qui impulsent, qui financent des start-up, qui leur font des transferts de technologie, qui les forment, qui les aident, qui les poussent. D'anciens cadres de ces grandes entreprises vont créer des entreprises qui sont des start-up qui sont financées, qui sont poussées. Et ça joue un rôle moteur très important. Donc c'est un peu le problème qu'on a à Montpellier. À la fois un dynamisme entrepreneurial très fort, un très bon accompagnement de ces start-up, mais un déficit en termes de grandes entreprises qui empêche peut-être qu'on ait des vraies transformations, des vrais succès. Après, ce qui arrive même, c'est que celles qui se transforment en licornes, là, elles partent.
Oui.
Elles vont chercher des bases d'emploi ailleurs, elles vont chercher des partenaires ailleurs.
Rappelez-nous ce que c'est qu'une licorne, rapidement.
Ah, c'est une start-up qui a réussi et qui est en forte croissance. Voilà. Oui, pardon.
Il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce que seraient vos prescriptions, justement ? On a bien compris quels pouvaient être les atouts de l'écosystème montpelliérain, les faiblesses, ce manque d'entreprises. Est-ce qu'on peut compenser ça, ce manque de grandes entreprises ?
Il y a une deuxième faiblesse qui est liée au fait que je pense également au fait qu'il n'y ait pas assez de grandes entreprises motrices. C'est un déficit de financement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les ventures capitalistes, c'est-à-dire des fonds privés qui vont investir dans 10, 15, 20, 30 projets. Il y en a un qui va marcher et ça va rembourser les 29 qui ne marchent pas. Donc on sait que ce qu'on appelle les ventures capitalistes, c'est à la base du succès de l'entrepreneuriat high-tech dans la Silicon Valley. Et ça, on en manque aussi. On en manque à Montpellier. Donc ce double manque fait que les pouvoirs publics, effectivement, ont un rôle peut-être plus important à jouer dans la structuration de l'innovation collaborative.
Et justement, tout en restant dans les difficultés, ce qui peut être rencontré par les entreprises, est-ce que ce n'est pas difficile parfois de persuader une entreprise de s'ouvrir à ceux qui étaient peut-être ses concurrents ? Anne-Sophie Fernandez, qu'est-ce que vous en pensez ?
Si, tout à fait. Une entreprise, lorsqu'elle collabore, il y a un premier choix à faire, c'est avec qui ? Et parmi les potentiels partenaires, souvent le concurrent apparaît comme un choix optimal parce qu'on a des ressources et des compétences qui sont à la fois similaires et qui sont facilement combinables pour développer des innovations. Mais ce faisant, l'entreprise, elle s'expose à d'importants risques puisqu'elle ouvre ses connaissances et elle les ouvre à son principal concurrent. Donc il y a un enjeu de protection des connaissances, premièrement, et puis se pose ensuite la question de l'avenir de la connaissance que l'on va créer en commun, qui va se l'approprier. Donc ça pose d'importantes questions de gouvernance de cette innovation que nous on appellera coopétitive, c'est-à-dire collaborative entre concurrents, et puis d'enjeux de propriété intellectuelle ou industrielle, le cas échéant, de l'aboutissement de cette innovation.
On est dans des cas de copropriété intellectuelle, alors, dans ce cas-là.
Tout à fait, oui.
À deux niveaux, si vous voulez. Il y a le premier niveau, les connaissances qu'on met ensemble. Donc, les connaissances qu'on met ensemble, les entreprises essayent de mettre ensemble des connaissances protégées le plus possible. Par exemple, il y a un effet, plus on a des brevets, en fait, sur la connaissance, plus on va collaborer facilement, finalement. Et inversement, moins on a une connaissance qui est brevetable, où qu'on peut dire, c'est notre propriété, on la met dans la collaboration, mais c'est bien à nous, c'est bien marqué dessus, plus elles sont réticentes à collaborer. Parce que comme on ne sait pas à qui appartient la connaissance, il peut y avoir une appropriation par le partenaire. Alors il y a les contrats qui permettent de régler ça, mais les contrats sont toujours incomplets. La nature des contrats, c'est d'être incomplet. Donc il y a toujours des zones d'ombre, et il peut y avoir des problématiques d'appropriation de connaissances ou de transfert de connaissances non désirées aux partenaires. Il peut y avoir de l'opportunisme des fois. Voilà. Et c'est vrai que du coup, la propriété intellectuelle, c'est assez central. Donc ça, c'est un rôle que peut jouer dans les pôles de compétitivité qui est important. Plus les pouvoirs publics peuvent garantir la propriété intellectuelle ou en tête la propriété intellectuelle dans les projets, en fait, le vrai soutien qui peut être apporté à des startups ou à des petites entreprises, c'est en termes de droit des contrats, par exemple. C'est un vrai soutien qui est apporté d'ailleurs par le pôle de compétitivité, qui ne travaille pas forcément sur le contenu de la collaboration, mais qui va créer les conditions pour que les possibilités d'opportunisme soient moins fortes.
Bien, merci beaucoup, je m'excuse, le temps file déjà très rapidement. Merci beaucoup d'être venu parler de cette question très intéressante et notamment d'un rapport sur Montpellier. Vous travaillez sur autre chose actuellement, vous préparez un autre rapport ?
Oui, on prépare la suite, c'est-à-dire que là on a fait un état des lieux. Et là, on va rentrer dans des projets spécifiques. Et là, pour l'instant, on a interrogé ceux qui sont à la tête des structures. Et là, on va rentrer dans les projets et interroger beaucoup plus les entreprises pour savoir comment elles le vivent, ce que ça leur a apporté, les points positifs, les points négatifs, et qu'est-ce qu'elles aimeraient pouvoir améliorer.
Eh bien, au plaisir d'en discuter à nouveau avec vous. Alors, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et c'est maintenant l'heure de descendre en salle des machines. Et aujourd'hui, c'est Stéphane Perret qui nous emmène à Euromov.
Bonjour, donc Stéphane Perret, directeur du centre de recherche Euromove, et j'assure ici donc aussi des travaux de recherche orientés sur la physiologie de l'exercice chez l'homme.
Donc aujourd'hui, on vient visiter une plateforme de simulation.
Oui, vous êtes sur une des plateformes que possède ce centre, notamment la plateforme de simulation du mouvement, dénommée iMoves, avec la particularité d'avoir en son centre un robot, un bras articulé. Donc ce robot provient tout simplement de différentes fabrications industrielles qu'on peut retrouver dans l'industrie automobile. Par contre, l'originalité provient de son extrémité distale. Effectivement, vous avez au centre donc le référentiel, et ensuite vous avez différents segments qui sont articulés entre eux, un petit peu comme nos différentes articulations et entre le bras et l'avant-bras. Et tout au bout, donc à une certaine distance, on peut venir ici mettre différents dispositifs qu'on va pouvoir donc bouger dans un environnement donc qui est assez important. Vous pouvez monter jusqu'à 10 mètres.
Tu peux la décrire, la pièce ?
C'est un cube assez important qui est à une hauteur d'environ 10 mètres avec une certaine envergure ici de 5 mètres. Et après, on peut, à son extrémité, dès lors que le bras robotisé est en action, vous voyager tout simplement dans l'espace, dans les trois dimensions et selon les trois orientations.
Il y a une raison pour laquelle tout est noir ?
C'est davantage si on doit recréer effectivement des situations avec notamment un environnement, on va dire, virtuel, si on doit projeter différentes images sur l'ensemble du dispositif. C'était un petit peu l'idée d'avoir ici d'atténuer en tout cas les contrastes de couleurs. Dans les faits, on utilise davantage d'autres dispositifs de réalité virtuelle directement avec des casques embarqués sur la tête des participants. Nous sommes ici sur un centre basé sur le mouvement, donc notre intérêt premier a été effectivement d'aller développer quelque chose où on va étudier la posture, la personne donc érigée, et notamment lorsqu'elle bouge, notamment en situation de marche. La locomotion humaine, c'est notre objet d'étude premier.
Et depuis quand vous disposez alors de ce simulateur ici sur la plateforme ?
Pour cette plateforme appelée Flying Carpet, ça fait environ 6 mois que celui-ci est fonctionnel.
Alors je vous propose qu'on se rapproche. Donc là, on voit le bras articulé qui fait à peu près 2 mètres de haut. Et au bout, une cage en cordage avec un drôle de sol. Vous pouvez me parler déjà du sol ?
Oui, on peut apercevoir ici un sol avec un certain revêtement un petit peu caoutchouteux avec 2-3 irrégularités. C'est tout simplement un tapis roulant. Un tapis roulant de marche et de course avec la possibilité, bien évidemment, de faire pas mal de choses en termes de terrain varié. Vous pouvez monter, descendre, avoir tout simplement une déclivité sur le côté, droite, gauche. Et vous avez cette cage au pourtour qui permet tout simplement de sécuriser la personne qui sera mise en mouvement, notamment à quelques mètres au-dessus du sol.
Il y a différents capteurs dans cette cage, c'est ça ?
Alors, il y a différents dispositifs qui permettent de collecter des données sur tout simplement la production du mouvement qui est ici piloté, notamment la vitesse de défilement de la bande du tapis roulant, mais aussi après d'avoir des points de repère par l'intermédiaire de différents segments au niveau donc du bras robotisé dans l'espace.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des applications pratiques ?
C'est un outil déjà mis à disposition pour simuler tout type de mouvement avec une certaine précision, l'objectif étant de mieux comprendre notamment les pathologies reliées aux problèmes de transport. Donc on peut manipuler par ce système, ce dispositif, donc les entrées visuelles, mais aussi donc tout simplement les entrées vestibulaires. Le mal des transports, il est surtout aussi connu sur un mouvement qu'on peut avoir sur un bateau. C'est une expertise forte ici au centre Remove, où différents projets de recherche ont été mis en place dans ce sens. On émet un diagnostic dans un premier temps, et par la suite, on essaie de trouver des solutions, des interventions pour corriger ces pathologies en manipulant les sens.
Vous travaillez plutôt avec le monde clinique ?
On a effectivement la particularité de compter des cliniciens dans le domaine de la rééducation, ici, neurologique et locomotrice. Donc on travaille étroitement avec les collègues du CHU de Montpellier à La Péronie. Mais le transfert industriel est aussi envisageable, notamment par des grands groupes, pense à Alstom, vis-à-vis effectivement des rames de tramway, qui peuvent avoir un intérêt à mieux comprendre effectivement pour leurs usagers qu'est-ce qu'il faut adopter comme stratégie à l'amorce d'une station et notamment à son démarrage pour éviter toute forme de chute.
Alors des simulateurs comme ça, il y en a beaucoup en France ?
Alors en France, non. C'est le seul avec une orientation recherche. Il y en a un autre qui existerait, j'ai envie de dire, sur une orientation très très loisir. Par contre, au niveau européen, donc vous en avez effectivement 3. À l'échelle planétaire, vous en avez 5. Retenons que ce dispositif qu'on a devant les yeux, donc celui-ci, par contre, il est unique. D'avoir mis directement un tapis roulant à l'extrémité de ce bras robotisé, ça c'est vraiment un prototype.
Et est-ce qu'on peut parler rapidement alors de ce qu'on voit au fond Donc là, on voit une espèce de capsule avec un siège qui ressemble effectivement à un siège de pilotage, comme un hélicoptère.
Exactement, donc cette première capsule a été développée à l'origine, quand la plateforme a été installée. Vous pouvez voir effectivement un dôme où on peut avoir ici une projection directement de flux optique pour visualiser différentes scènes. On a différents scénarios effectivement de démonstration où on est en train de piloter à un moment donné cet hélicoptère dans une ville. Par contre, d'un point de vue recherche, c'est davantage sur la désorientation spatiale, notamment des différents pilotes, qu'il y a eu des travaux effectivement menés dans le cadre de thèses avec des sociétés partenaires.
Vous êtes toujours sur le 93.9, on passe maintenant à la chronique d'Amrine. Bonjour Amrine.
Bonjour Lucie.
Alors aujourd'hui Amrine, vous allez nous parler d'Arthur Dupuis, une histoire de parfum haute couture née au sein de nos laboratoires, c'est bien ça ?
Tout à fait Lucie. Depuis 2015, c'est au cœur des laboratoires de l'Université de Montpellier, à l'Institut des biomolécules Max Mousseron précisément, que l'atelier Arthur Dupuis a pris ses quartiers.
Alors Arthur Dupuis, c'est l'art du parfum de marque, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. L'entreprise crée un nouvel axe science marketing, imaginant des fragrances à partir d'extraits naturels plus confidentiels, encore non exploitées, obtenues par des procédés éco-responsables et assemblées de manière inédite, ce qui apporte une plus-value créative à la composition.
Alors, quelle est la nature de cette collaboration? Comment ça fonctionne?
Alors, c'est Arthur Dupuis qui a créé la société éponyme avec une volonté d'innovation. Il est donc le dirigeant de la société et le directeur artistique. Le docteur Isabelle Parot, elle, est spécialisée en chimie organique de synthèse, chimie médicinale, extraction de matières premières végétales, éducation sensorielle, formulation de parfums et arômes et valorisation de matières olfactives innovantes.
Rien que ça.
Rien que ça. Elle est la cofondatrice et y exerce un rôle de conseiller scientifique, apporte son expertise en chimie des parfums et arômes au pôle recherche et développement, ainsi qu'au pôle création et législation de la société.
Donc la recherche et l'innovation sont les deux piliers, enfin c'est les deux piliers de la start-up Montpellier-Rennes.
Oui, c'est ça. Plus qu'un partenariat, le transfert d'expertise scientifique vers la start-up lui permet de rester à la pointe de l'innovation. Cette méthode assemble d'élégantes matières premières naturelles et synthétiques qui sont souvent négligées, car les parfumeurs favorisent généralement l'utilisation de molécules synthétiques peu coûteuses. A l'inverse, chez Arthur Dupuis, les fragrances élaborées peuvent souvent, selon le désir du client, intégrer des extraits naturels d'une matière première confidentielle. Par exemple, un client peut, s'il le souhaite, établir sa propre identité olfactive incluant un extrait naturel personnalisé. Les processus d'extraction éco-compatibles développés en laboratoire permettent, eux, d'étudier les extraits du monde végétal ou même marin. Aujourd'hui, Arthur Dupuis concentre ses recherches sur 5 axes : parfums, actifs cosmétiques, arômes, nutraceutiques et thérapeutiques. Cette recherche pluridisciplinaire soutiendra ses futurs efforts pour créer de nouvelles lignes de produits innovants. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur www.arthurdupuis.com.
Et merci beaucoup, Amrine. Et la Science Amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la technique et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ses mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil. Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.